journal est présenté par Claire Flochel.
Bonsoir à tous. Comme un vent de révolte en Iran, où les habitants manifestent pour protester contre la politique économique de leur pays, mais expriment aussi un malaise bien plus vaste. Explication de David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. En Syrie, les forces du régime ont repris aujourd'hui de nouvelles localités aux djihadistes et rebelles à la périphérie de la province d'Idleb, l'une des dernières régions qui échappe au contrôle de Damas, est en proie à des violents combats. Nous rejoindrons notre correspondant Nicolas Feldman. Peu importe son âge, cet ancien responsable nazi doit aller en prison. Décision de la justice allemande à l'encontre de l'ancien comptable d'Auschwitz, âgé de 96 ans. Le récit de Pascal Thibault dans ce journal. Et puis 100 000 policiers, gendarmes ou soldats, 40 000 pompiers et des mineurs. La Saint-Sylvestre très surveillée et notamment sur les Champs-Élysées. Le dispositif sécurité mis en place demain avec Sophie Parmentier. Opposants et partisans du pouvoir manifestent en Iran. Plusieurs centaines d'étudiants favorables au régime se sont rassemblés devant l'université de Téhéran aujourd'hui après une protestation de plusieurs dizaines d'étudiants contre le pouvoir en place. Ces derniers jours, des centaines d'Iraniens ont manifesté à travers le pays. Ils dénoncent la politique économique du gouvernement. Le chômage touche un jeune sur quatre. Le taux d'inflation frôle les 10%. Pour David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, ces rassemblements sont le signe d'un large malaise économique et politique.
Ils traduisent incontestablement une forme de revendication sociale. Hein. Il y a un malaise profond qui s'est installé. Ça déborde dans plusieurs villes. Initialement, c'était d'abord à Machan, qui est la deuxième agglomération. La contestation s'est étendue. Alors, elle a un caractère socio-économique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des slogans politiques qui apparaissent. Et c'est tout le problème, parce que le mécontentement est réel. Et la question, effectivement, en arrière-plan, c'est de savoir s'il y a une instrumentalisation, parce qu'il y a un certain nombre de slogans, par exemple, qui disent « pas Gaza, pas Liban, ma vie est en Iran », c'est-à-dire que c'est aussi une stigmatisation de l'interventionnisme à l'extérieur pour un coût économique et humain qui pénalise évidemment le pays en interne.
David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, au micro de Simon Le Baron. En Syrie, les troupes de Bachar al-Assad avancent dans la province d'Idleb, la seule région de Syrie qui échappe totalement au contrôle du régime. Appuyées par l'aviation russe, les troupes du pays ont repris aujourd'hui de nouvelles localités aux djihadistes et rebelles. Les violents combats menés depuis le début de semaine ont poussé les civils à fuir. Nicolas Feldman est le correspondant de France Culture dans la région.
À bord de pick-up et de camions, par centaines, les civils ont fui les combats aujourd'hui en portant avec eux des meubles, des matelas, des couvertures. Signe de la violence des affrontements, la prière musulmane hier a été annulée dans plusieurs villages rebelles où des messages diffusés par haut-parleurs appelaient les habitants à rester chez eux. En trois jours, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG d'activistes basée à Londres, recense la mort de 82 personnes, dont 21 civils. Un bilan qui résulte de l'offensive lancée lundi par les troupes loyalistes appuyées par l'aviation russe autour de cette province d'Idlib. La dernière région qui échappe entièrement au régime est dominée par le front Fatah al-Sham, l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, cette opération vise à reconquérir le sud-est d'Idlib, un moyen pour le régime de sécuriser la route qui relie Alep, deuxième ville du pays, à la capitale Damas. Une opération qui pourrait aussi et surtout marquer le début d'une offensive d'envergure pour reprendre cette province d'Idlib. Mercredi, le chef d'état-major russe déclarait dans une interview que l'objectif de 2018 était d'éliminer le front Fatah al-Sham et les autres forces jugées opposées au cessez-le-feu.
Nicolas Feldman, correspondant de France Culture à Beyrouth. Puis toujours en Syrie, mais plus à l'est, deux fosses communes ont été découvertes dans la province de Raqqa. Elles contiennent des dizaines de corps de civils et de militaires tués par le groupe État islamique. Au Libéria, George Weah a remporté haut la main la présidentielle. L'ex-footballeur star, candidat des jeunes et des démunis, est devenu président hier avec 61,5% des suffrages. L'ONU a salué un processus électoral réussi, mené dans un cadre pacifique. Cette élection pourrait ouvrir une nouvelle page démocratique pour ce petit pays, l'un des plus pauvres d'Afrique et qui a souffert successivement d'une guerre civile et de l'épidémie d'Ebola. Antoine Glaser, journaliste spécialiste de l'Afrique.
Qui vient de se passer au Libéria, et il est exceptionnel quand même sur l'ensemble du continent africain. D'abord, Ellen Johnson Sirleaf La présidente a accepté de se retirer après deux mandats. Vous avez vu que le vice-président précédent, Joseph Boakai, a accepté de reconnaître sa défaite. Quand on voit un certain nombre de pays africains où les chefs d'État essayent de se maintenir au pouvoir pendant plus de 30 ans, changeant les constitutions et en devenant des présidents à vie, franchement, c'est vrai que c'est assez important et ça conforte vraiment cette région d'Afrique de l'Ouest. On a vu déjà comment les mouvements populaires, la société civile au Burkina Faso a obtenu un changement. On l'a vu aussi au Sénégal. Vous avez des pays comme aussi le Ghana voisin. Vous avez des alternances démocratiques et donc ça veut dire, malgré des difficultés en particulier sur le plan économique et social, il y a une énergie démocratique au Libéria comme dans toute cette région qu'il faut d'abord saluer et dont il faut se réjouir.
Antoine Glaser, journaliste spécialiste de l'Afrique, joint par Eva Jednak. Il est l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. Alexei Navalny ne pourra pas se présenter à la présidentielle en mars prochain. La Cour suprême russe a rejeté son recours. Alexei Navalny est déclaré inéligible à cause de sa condamnation l'an dernier à un an de prison avec sursis. Sur Twitter, le principal opposant au Kremlin appelle au boycott du scrutin et assure qu'il ne reconnaîtra pas des élections sans compétition. Oscar Gröning a 96 ans, ça ne l'empêchera pas d'aller en prison. Cet Allemand a été condamné en 2015 à 4 ans d'enfermement pour sa complicité dans l'assassinat de 300 000 personnes dans un camp d'extermination. Il était le comptable d'Auschwitz. La Cour constitutionnelle allemande a rejeté hier son recours. Pascal Thibault de RFI est à Berlin pour France Culture.
La décision est définitive et sans appel. Oscar Gröning, 96 ans, devra purger le reste de sa peine en prison. La Cour constitutionnelle confirme un précédent jugement et estime que les faits reprochés à l'ancien comptable d'Auschwitz justifient sa détention, sauf si son état de santé devait se dégrader. Oscar Gröning avait été recruté en 1942 à 21 ans pour travailler à Auschwitz. Il était chargé de trier et de comptabiliser l'argent confisqué aux Juifs lors de leur arrivée dans le camp d'extermination. Le procès contre Oscar Gröning fait partie avec d'autres ces dernières années contre des gardiens de camps de concentration, des derniers intentés par la justice allemande. Les crimes commis ont été volontairement oubliés après la guerre. Peu de responsables importants ont été condamnés. La justice a longtemps exigé une preuve de la culpabilité individuelle pour engager des poursuites. Tout a changé avec la condamnation de John Demjanjuk en 2011, ancien gardien du camp de Sobibor. Sa simple présence sur place le rendait complice de la Shoah. Depuis, la justice allemande a relancé des poursuites contre des nonagénaires qui occupaient à l'époque des postes subalternes.
Pascal Thibault, correspondant de RFI à Berlin pour France Culture. Sous l'œil des caméras, Emmanuel Macron a signé aujourd'hui 3 textes de loi récemment votés. Un cérémonial déjà adopté pour les 3 premières lois de son quinquennat. Il s'agit de la loi de finances pour 2018, de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi qui met fin à la recherche et l'exploitation des hydrocarbures. Le chef de l'État a réitéré son intention de supprimer définitivement la taxe d'habitation pour tous les Français à l'horizon 2020. Emmanuel Macron présentera ses vœux aux Français demain soir. Où que vous le fêtiez, ce nouvel an s'annonce très surveillé, toujours dans un contexte de menaces terroristes élevées. Policiers, gendarmes ou soldats de l'opération Sentinelle, 100 000 membres des forces de sécurité vont patrouiller sur l'Hexagone. Près de 40 000 pompiers et démineurs sont aussi mobilisés dans les grands lieux de rassemblement. Sophie Parmentier.
Le rassemblement le plus massif est attendu sur les Champs-Élysées. 300 000 personnes pourraient venir y fêter le passage à l'an 2018, alors que le feu d'artifice sera tiré au-dessus de l'Arc de Triomphe demain soir. C'est une foule à laquelle nous nous sommes préparés, explique le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, qui a prévu un périmètre de protection d'envergure autour de la célèbre avenue, avec des plots en béton, mais aussi des fouilles pour faire face à la menace terroriste, dit-il.
C'est l'existence de cette menace qui m'a conduit à prendre un arrêté créant un périmètre de protection. C'est une application de la loi sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme qu'a fait voter M. Gérard Collomb. Un arrêté de protection qui fera en sorte que toutes les personnes qui viendront sur les Champs-Élysées pour cet événement qu'organise la mairie de Paris seront contrôlées de manière courtoise, de manière souple, mais les sacs seront vérifiés, des palpations légères, si nécessaire, des contrôles d'identité. De même, des dispositifs anti-véhicules béliers seront en place pour s'assurer que cette foule qui sera sur les champs est une foule qui pourra aller venir en toute sécurité.
À Paris, pour cette Saint-Sylvestre, le préfet de police rappelle qu'il sera aussi interdit de transporter des feux d'artifice et même des pétards.
Reportage signé Sophie Parmentier. La météo de demain dimanche, le dernier jour de 2017, sera encore gris et pluvieux sur une petite moitié nord. Il y aura de belles éclaircies en Ile-de-France, dans le Val-de-Loire et en Bourgogne-Franche-Comté. Le soleil sera de la partie dans la moitié sud. Les températures 6 degrés à Lyon, 11 à Strasbourg, 12 à Lille et Brest, 13 degrés à Paris. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue, à la technique Yanis Djoudad.